1810, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche. L'Empire est né le 2 décembre 1804. Un empire présenté comme le successeur des empires mérovingiens et carolingiens. On a soigneusement évité de faire allusion aux Capétiens. Cet empire est héréditaire, c'est-à-dire que c'est le fils de Napoléon qui remplacera son père. Mais pour l'instant, ce fils se fait attendre. Des enfants, mais Napoléon n'en manque pas. Il lui en est né de ci, de là, au cours de ses campagnes, au fil de ses conquêtes et de ses ruptures.
En amour,
disait-il,
une seule victoire, la fuite.
Mais point d'héritier. Joséphine ne parvient pas à lui donner ce successeur qu'elle espère tant. La solution ? Le divorce. Le 30 novembre 1809, il annonce à l'impératrice, qui se jette à ses genoux, se tord les bras de douleur, de détresse, de désespoir et d'inquiétude pour son avenir matériel, pour les revenus qui lui permettent de faire face à ses dépenses colossales. Elle lui dit « Alors, tout est fini ?» Presque. Son Napoléon de mari va lui allouer une indemnité et un revenu annuel si confortable qu'elle met peu de temps, finalement, à se résoudre à l'affreuse réalité. Le 6 janvier 1810, Napoléon apprend que le tsar Alexandre hésite à lui donner en mariage sa jeune sœur Anne, encore impubère. Le lendemain, il fait savoir à l'ambassadeur d'Autriche, Schwarzenberg, convoqué aux Tuileries, qu'il épouse l'archiduchesse Marie-Louise, que lui avait proposé Metternich, ministre des Affaires étrangères d'Autriche. Personne à Vienne n'est au courant de cette soudaine décision. Mais dès le soir, en France, la nouvelle est publiée. Personne ou presque. Le chancelier autrichien Metternich se frotte les mains. En effet, c'est lui qui, jugeant trop dangereux cet empereur avide, a tout fait pour lui faire savoir indirectement que s'il demandait la main de la fille de l'empereur d'Autriche, celui-ci était tout disposé à la lui accorder. Voilà donc qui est fait.
Napoléon, petit-neveu de Louis XVI. Napoléon, qui se marie avec Marie-Louise d'Autriche, entre dans une famille qui va le rendre, par alliance, petit-neveu de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Ses enfants trouveront parmi leurs ascendants Louis XVI et Charles Quint, et dans leur cousinage, plus ou moins éloigné, les Condé, donc le duc d'Enghien. J'épouse un ventre.
Ainsi s'exprime Napoléon lorsqu'il présente à son entourage son mariage avec Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, dite Marie-Louise d'Autriche, née le 12 décembre 1791. Il a besoin d'un héritier. Marie Walewska lui a prouvé, en lui donnant un enfant, qu'il n'était pas stérile. Marie-Louise n'a pas encore 18 ans quand elle découvre, le 27 mars 1810, celui qu'elle a longtemps appelé, comme tout le monde à la cour de Vienne, le monstre. On l'a fait changer d'avis, progressivement, pour raison d'État. Le 27 mars 1810, Napoléon est tout excité. La rencontre est prévue à Soissons, mais n'y tenant plus, il file en compagnie de Murat vers Reims. Il rencontre alors le cortège de 300 personnes qui accompagnent la promise impériale. Il ouvre la porte du carrosse de Marie-Louise qui, somnolente, est prise d'un mouvement de recul devant ce petit homme au teint jaune. « C'est l'empereur !» lui dit-on, et elle se laisse embrasser. À Soissons, l'étape est brève. Le cortège repart vers Compiègne. Napoléon demande au Murat qui l'accompagnait de le laisser seul avec Marie-Louise dans le carrosse. Et tout le monde remarque, à l'arrivée, que la robe de Marie-Louise est toute chiffonnée, que sa coiffure a souffert. Bref, qu'il a dû s'en passer, des choses. Et ce n'est pas terminé. Un grand banquet doit être servi à Compiègne. On attend les deux tourtereaux 1 heure, 2 heures. À minuit, ils ne sont toujours pas là. Le maître des cérémonies annonce, l'œil est grillard, que leurs majestés se sont retirées. Un ventre. Napoléon s'aperçoit que Marie-Louise ne se réduit pas seulement à cet élément anatomique. Le lendemain, il conseille à Savary, son aide de camp.
« Mon cher, épousez une Allemande. Ce sont les meilleures femmes du monde. Douces, bonnes, naïves et fraîches comme des roses. »
Fait divers. En 1791, Marie-Louise est née et Bonaparte a bien failli mourir. En effet, jeune lieutenant de 22 ans, il est en garnison à Auxonne, en Côte d'Or. Le 5 janvier, alors que les fossés de la forteresse sont gelés, il patine avec deux autres militaires en attendant le repas de midi. Soudain, la cloche sonne, indiquant que l'heure de passer à table est arrivée. Bonaparte, le ventre creux, ne suit pas ses deux amis qui insistent pour qu'il effectue avec eux un dernier tour sur la glace. Il s'élance. Moins d'une minute plus tard, dans un bruit mat, amplifié par les murs de la forteresse, la glace se fend et engloutit les deux jeunes hommes qui meurent aussitôt. Un peu moins d'appétit et Napoléon Bonaparte eut pour toujours glissé dans la rubrique obscure des faits divers oubliés.
19, 20, 21, 22. Si le premier enfant de Marie-Louise avait été une fille, les Parisiens savaient qu'ils n'entendraient que 21 coups de canon. Au 22e, ils savent que c'est un garçon, un héritier impérial. 100 coups de canon sont tirés ce 20 mars 1811. Napoléon est fou de joie. Pourtant, l'accouchement a été difficile. Consulté, l'empereur a décidé que si une seule des deux vies devait être sauvée, ce serait celle de Marie-Louise. Pendant un temps, on croit l'enfant mort-né. Finalement, tout se termine bien et l'enfant nouveau-né est prénommé Napoléon-François-Joseph-Charles. Il est, en naissant, roi de Rome.